Bienvenue à le Stand Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Lozé, Marc-André et Marco qui nous rejoint là, après une grande pause de deux semaines. Comment ça va les boys?
Yes sir! Content de trouver.
Nice, ça va super bien. Puis là, dans le fond, sûrement que ça va bien parce que comme Lozé a dit, quatre fois dans l'année, ça arrive des matchs, où est-ce qu'on a des matchs matin le dimanche pour une plage horaire de plus. Puis c'est les plus belles journées. Ça, puis le Thanksgiving américain. Il ne fight pas, mais un jeudi match. Quand ça arrive, on en
voilà.
Au maximum. On a déjà hâte à ce jeudi-là. Quand même bien content. Là. Quelques petits retours de matchs qui vont être quand même pertinents. Il y a eu des blowouts, il y a eu des matchs serrés. Il y a eu des matchs qui n'étaient pas supposés être serrés, qui sont devenus serrés plus qu'on le pensait. Donc, quand même quelques petites surprises cette semaine. Et avant toute chose, là, on remercie Dualité pour la musique d'intro. Puis Marc-André, plug dans nos réseaux. Puis ensuite, affiche là, qui a les meilleures prédictions après deux semaines de prédiction.
Yes!
De la semaine 4.
Je nous fais ça premièrement, l'assistant coach podcast sur Facebook. Cette semaine, on a un post qui approche les 100 views, partages et tout ça. Fait que c'est, on voit que la communauté grossit. Fait que c'est vraiment cool. Sauf que l'affaire, c'est que je vois que la majorité des gens qui regardent nos posts ne sont pas abonnés. Fait qu'assurez-vous de vous abonner à notre page Facebook, l'assistant coach podcast. Je nous fais des petites vidéos, je mets nos prédictions là. Des fois, on se niaise un peu. Fait que c'est vraiment cool. Suivez-nous sur YouTube aussi. Depuis quelques semaines, on a rajouté un peu là, de visuel. Donc, n'hésitez pas à aller nous regarder sur YouTube pour ceux qui voudraient avoir un peu plus le visuel si vous nous écoutez en audio.
Pour le visuel, baissez vos attentes parce que c'est pas la grosse. On n'a pas là, gestionnaire non plus qui nous fait quoi de fou. Là. C'est juste
qu'on n'a pas de graphiste.
Plus, on n'a pas de visuel par rapport à ce qu'on mentionne. Donc, on prend
il
pas pour le
de visuel. Il y a au moins le trophée de fantasy.
Let's go.
Il y en a qui rit, l'autre part.
Je suis mal parti dans ce pool-là. En plus, c'est pas cool. En tout cas, on en reparlera.
Ouais. Marc-André, parle-nous là, dans le fond de qui mène. Puis tu as des prédictions. Là, qui
yes, c'est qui visuel. Parlant de visuel, on regarde mon super graphiste ici, un beau fichier Excel. Donc, les prédictions de la semaine dernière. Donc, en gros, c'est Marco qui gagne la semaine avec 10 bonnes prédictions. Marco avait aussi gagné la semaine d'avant à égalité avec Julien. Donc, c'est Marco qui est en tête. Et je suis bon dernier. J'ai même pas eu la moitié des matchs bons. Donc, je m'incline devant vous, les boys. Félicitations.
Oui. 9, on le talonne là, pour Lozé puis moi. Puis Marc-André, 7. Là. Aye, ça, c'est gênant.
Exact. Pour la fiche globale après deux semaines de prédictions est ici. Donc, c'est Marco avec 21-11 comme fiche. Et je ferme la marche avec 16-16. Donc, je suis 500.
Je pensais avoir eu une semaine difficile, puis finalement, dans le fond, on a...
Finalement, quand même pas payé.
Oui, puis en même temps, j'en parlais avec Marc-André au téléphone, puis des fois, il y a des matchs qu'on n'a pas le choix de prendre pour le favori, mais on sait que ces favoris-là ne vont pas avoir une saison sans défaite, puis même aussi des équipes qui sont peut-être défavorites ne vont pas avoir que des défaites non plus. Fait, il y aura des surprises, il y aura des matchs, puis il y en a eu cette semaine, donc c'est le fun, on va pouvoir en jaser un petit peu. Mais avant toute chose, là, Marc-André, fais-nous le petit résumé en rafale des matchs dont on ne parlera pas. Puis ensuite, on va faire une petite analyse de quelques matchs. On a trois matchs dont on va vous parler plus tard dans le podcast.
Yes, donc en rafale, les matchs de cette semaine dont on ne vous parlera pas. Donc, dimanche matin, j'ai un gros mea culpa à faire auprès des Steelers. Julien, je m'excuse, tes Steelers sont meilleurs que je le pensais. L'emporte 24-21 sur les Vikings. Aaron Rodgers qui tripe sa vie à Dublin et avec Mike Tomlin. Les Falcons.
Les Falcons. Il y a des mimes là, dans ce match-là.
Ah oh, oui, vraiment. Le genre de touche-push là, qui est là, genre,
juste avec ses... juste
le doigt, voilà, c'est malade. Allez voir ça.
Ah ouais.
Les Falcons qui rebondissent après un blowout la semaine passée, l'emportent 34-27 sur les Commanders. Les Commanders, oui, Jalen Daniels est blessé, mais ça commence quand même à être inquiétant pour les Commanders ce début de saison-là. Les Bills l'emportent 31-19 sur les Saints. C'est un match quand même plus serré que plusieurs avaient pu le penser. Je pense que la cote était à moins 15 Bills, donc ceux qui ont pris la cote, ça n'a pas passé. Les Lions qui explosent les Browns. Les Lions sont de retour au sommet avec leur attaque surpuissante, 34-10. Les Texans l'emportent 26-0 dans un match où le score pourrait penser à un blowout, mais ça n'a pas été si impressionnant que ça, cette victoire-là des Texans, bien honnêtement. Il reste encore quand même beaucoup de questions sur l'attaque des Texans. Les Pats qui éclatent les Panthers, 42-13, et restent dans la conversation pour un spot de wildcard dans la AFC. Les Eagles qui l'emportent 31-25 sur les Buccaneers malgré aucune passe complétée de Jalen Hurts en deuxième demi. Je comprends absolument rien à cette équipe-là. Pour vrai, ils sont 4-0. Puis pour vrai, à chaque semaine, j'ai l'impression que j'ai juste des stats négatives à dire sur cette équipe-là, mais ils sont 4-0. Je comprends absolument rien de cette équipe-là. J'ai hâte que vous m'en disiez plus parce que je comprends rien. Les Rams qui l'emportent 27-20 dans un match, je pense qu'on peut le dire maintenant en deux excellents de la NFL, les Colts, on les a sous-estimés. Et si c'était pas d'une gaffe complètement débile mentale du receveur des Colts qui s'en allait tout seul pour un toucher puis qui a échappé le ballon à la ligne de 0,5 et la balle est sortie à l'extérieur du terrain dans la zone de but pour un touchback, donc on aurait eu peut-être une égalité, voire peut-être une victoire des Colts, ça aurait été fou. Les Jaguars qui l'emportent 26-21 sur les 49ers qui ont plus de joueurs dans leur tente bleue que sur le terrain dans le match tellement ils ont blessé. À un moment donné, il y avait une file pour aller à la tente bleue dans ce match-là tellement qu'il y avait de joueurs blessés. Donc, c'est un peu pitoyable. Les Bears qui l'emportent dans une fin de match complètement malade mentale, qui l'emportent 25-24 sur les Raiders de Las Vegas. Geno Smith est juste pas de calé pour être un corps arrière dans cette ligue-là. Ashton Jeanty qui est une révélation dans ce match-là. Enfin, un premier bon match. Donc, c'est vraiment lui qui a porté l'attaque des Raiders sur ses épaules. Dans un match de débile mental, un autre dimanche soir, un match qui a terminé tard dans la nuit de dimanche à lundi. Match nul entre les Packers et les Cowboys de 40-40. Jordan Love, qui avait aucune idée qu'il restait 4 secondes de jeu à la prolongation, a failli scraper la game pour les Packers. Il était là, il jasait put-put. Honnêtement, j'étais convaincu que les Packers avaient perdu ce match-là quand la passe a eu lieu. Finalement, lundi soir, deux matchs super intéressants avec d'excellentes équipes. Les Dolphins qui l'emportent 27-21 sur les Jets. Ce qu'on retiendra de ce match-là, c'est la blessure incroyable à Tyreek Hill qui s'est éclaté le genou. Donc, sa saison est terminée. Les Dolphins l'emportent quand même 27-21 dans ce match de bas de calibre. Et finalement, les Broncos qui éclatent les Bengals 28-3. Les Bengals sans Joe Burrow, c'est tout simplement n'importe quoi. La ligne à l'attaque des Bengals est juste pas de calibre de la NFL. Là.
Aïe, aïe, aïe. Temps à jaser. Merci, Marc-André, pour le petit rappel. L'affaire qui est drôle aussi, Steelers-Vikings. Aaron Rodgers, il y a un jeu qui n'a juste pas bougé puis il a pointé. Puis il y a un autre jeu où il a fait un bloc pour son porteur de ballon.
C'est vrai.
Donc, c'était inspirant de le voir impliqué dans le match. C'était quand même... il a même célébré un fumble. Il a couru 13 verges. Il se fait plaquer. Il parle le fumble, mais c'est son joueur.
Oui, c'est le joueur.
Broderick Jones qui reprend la balle avec un bond parfait dans ses mains. Puis il fight au sol. Yeah! Premier essai alors qu'il fait le fumble. Il y a eu des memes dans ce match-là. Ça a été quand même très divertissant. Une chance, la fin de match, les Vikings sont réveillés, mais tu sais, quand c'était 24-6, là,
amener c'était
pas de match. Puis encore une fois, dev spécial. Puis là, tout d'un coup, ça a été des courtes séquences, deux jeux explosifs qui ont remis les Vikings dans le match. Puis enfin, c'est stressant. Enfin, c'est tendu. Les Vikings auraient pu se faufiler avec la victoire à cause de cette gestion-là. L'osé, tu fais une face.
Pas tout, honnêtement, moi j'ai juste en tête Rodgers que les mains s'éhanchent.
Ah ouais, vraiment, ouais, comme.
Honnêtement, juste
un contour dans sa tête.
Tu sais, juste un esti fainéant, là. Puis en tout cas.
Il a dû se trouver une grotte pour aller prendre de la mawash. Je sais pas, c'est quoi la mawashka, là, dans une grotte à Dublin. Puis il est
bien là. Mais Marc, moi je suis content dans ton recap de deux affaires. Parce que moi, je suis tombé depuis le début envers les Steelers, envers les Colts. Je crois pas. Ça. Mais moi, je n'ai pas changé. Puis c'est tout le temps qu'il y a quelqu'un qui sort et qui fait son mea culpa, qui dit « Ouais, finalement, je me suis trompé. Sont legit, ces équipes-là. Mm. Oh my God, c'est la descente aux enfers après ça. »
Ah non, il y a...
Je pense que tu viens de régler le cas des Steelers, les Colts, c'est fini.
Losé, attends. C'est que là, dans le fond, je vais juste mettre un peu rectifier le tir. Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit que je suis 100% d'accord avec toi, puis un autre que je suis complètement en désaccord avec toi. Il n'a pas dit qu'il était legit ou qu'il était les contenders ou qu'il aspirait au Super Bowl. Il a dit qu'il était meilleur qu'il pensait. Lui, dans sa tête,
je pensais qu'il était vraiment pourri.
Là, il a vu ce que ça donnait. Puis ça a été quand même 2 force fumbles, 2 interceptions, 6 sacks. La défensive a mangé les Vikings tout le long.
Ils ont
mis de la pression sur cette équipe-là.
La défensive est legit.
Puis ça l'offre à l'attaque quelques splashes. Puis ça le suffit pour gagner le match. Puis la défensive maintient. Quand la défensive n'a pas fait la job lors du match 1, c'est l'attaque qui s'est réveillée avec 4 passes de toucher pour Aaron Rodgers. Puis il n'y en a pas 4 dans les 3 matchs qui suivent. Fait que tu sais, ils gagnent de différentes façons, mais ils sont meilleurs que ce qu'ils leur accordaient. Je te dis pas qu'ils sont en train de contender, qu'ils vont éclater la AFC. Je te dis juste que merci de reconnaître leur juste valeur. Je ne suis pas en train de les encenser. Je ne suis pas en train de les dénigrer non plus. Ouais, mais Julien, mais, voilà.
Moi, je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà parlé de leur juste valeur. 8 victoires, 9 défaites ou 9 victoires.
On ne sait pas comment, exact.
On ne sait pas comment ils vont finir à 9-8.
Exact. Pour l'instant, c'est ça, jusqu'à ce qu'ils nous font mentir ou nous prouvent le contraire, mais c'est, pour l'instant, c'est ce qu'on s'attend. Là, maintenant, parlons des matchs, là, sans plus tarder. On va commencer avec Marco, là, parce que ça fait longtemps que tu n'étais pas là. On veut entendre le bouchon de ta voix. Et dans le fond, juste mentionner, là, pour ceux qui ne nous voient pas et nous écoutent sur les plateformes audio, il porte un jersey de Saquon Barkley pour les Giants. Donc, avait pris pour les Chargers. Ces Chargers étaient 3-0. Les Giants n'allaient nulle part, ont fait un changement de la position de corps. Ils ont dit « Russell Wilson, t'es fini, on te bench. Dart a commencé, il a montré ses moves, ses courses, des petits pas de danse pour célébrer des touchés. Is it the real deal? » Marc-André, mets-nous en contexte, puis ensuite, Marco, fais ton analyse du match.
Je peux te faire une mini parenthèse?
Ben oui.
Je sais, là, je ne veux pas prendre trop de temps.
J'avais la meilleure intro depuis un bout.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai une mini. C'était extraordinaire, ton intro. On va se le dire.
Ouais, c'est bon.
Puis, non, mais, tu sais, on parle beaucoup de fantasy souvent, puis toute l'équipe, mais depuis cette année, il y a un nouveau type de fantasy qui s'appelle guillotine. Ça fonctionne, c'est... tout le monde a leur équipe au début de la saison. Puis le plus bas score après la semaine 1, celui qui a fait le plus bas score, il est éliminé.
Okay.
Tous ses joueurs retournent dans les waivers. Le monde peut bêter sur. Puis là, c'est ainsi de suite jusqu'à qu'il reste une seule personne. Là, hier, il y a quelqu'un qui a perdu sa tête. Puis à ceux qui ont le visuel en ce moment, vous êtes chanceux de voir la vraie tête à Marco parce que la tête visuelle, la tête dans le guillotine hier, il est perdu, il est éliminé. Fait que vous êtes chanceux de voir encore sa tête sur les épaules.
Merci à Neighbors qui s'est pété le genou et à AJ Brown qui lit un livre sur le banc. Non, mais honnêtement...
Il n'y a juste pas de QB, AJ Brown.
Fait que c'était juste ma mini parenthèse. Je vous dis que vous êtes chanceux de voir la tête à Marco aujourd'hui.
Ouais, non, c'est ça. On a bien ri de moi
Marc-André, mets-nous en contexte.
Les Giants, honnêtement, causent la surprise. Là, les Chargers, qui avaient été très impressionnants, les Giants l'emportent 21-18 sur les Chargers. Comme tu le disais, Julien, premier match de Dart au poste de carrière des Giants. Il n'a pas été ultra spectaculaire. Il n'a pas fait un match de 400 verges. Il a fait juste assez. La grosse différence, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas eu de pic. 111 verges par la passe, 54 au sol. La différence de l'autre côté, c'est Justin Herbert se lancer deux picks. Ça a vraiment été ça, l'histoire du match. Mario Hampton, 12 courses, 128 verges. J'ai très hâte de t'entendre parler de ça, Marco, parce que moi, un gars qui a en haut de 10 verges par course, qui a juste 12 courses, j'ai la misère à comprendre un peu ce qui s'est passé là. Fait que je te laisse nous jaser à ce match-là, Marco.
Tu peux-tu répéter que tu dis par rapport aux 10 verges, 12 courses, quoi?
12 courses, 128 verges, Mario Hampton.
Oui, non, ben exactement. Ben, en tout cas, Ryan Hampton, c'est très bon pour ceux qui ont des fantaisies ou des dynasties ou quoi que ce soit. Là. C'est très bon signe. Là. Il mérite vraiment sa deuxième place après Genty comme running back. C'est très impressionnant, surtout qu'il va sûrement pogner beaucoup plus de passes bientôt à cause que, ben, déjà qu'il en pogne quand même pas pire. Je trouve qu'il l'utilise un peu comme Austin Eckler dans le temps. Puis on n'aura pas le choix de le faire parce que là, on vient de perdre, quand je dis on, parce que je parle de mes Chargers, malgré que j'ai un chandail des Giants.
Ouais, c'est ça.
Mais on a perdu Joe Hart, qui remplaçait justement le OT le plus payé de la ligue à la gauche dans le blind side à Justin Herbert. Donc, ça va être difficile pour Hampton d'avoir le yard per carry en traversant la ligne de mêlée. Donc, il va falloir qu'il commence à y passer beaucoup plus le ballon. Fait que côté fantasy, pour ceux qui ont Hampton, c'est un must-start à tous les semaines. Ça fait deux semaines qu'il y avait des semaines quand même extraordinaires pour une recrue après seulement quatre semaines. C'est très impressionnant. Sinon, Quentin Johnson continue sur son breakout years. Ben, je te dirais qu'il a commencé à breakout l'année passée, mais cette année, je m'attendais pas à ce qu'il continue à ce point-là. Mais ça vient avec une autre mauvaise nouvelle, c'est que Ladd McConkey est complètement invisible. Puis ça, c'est un peu fou parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il a manqué deux semaines d'entraînement au training camp pour une petite blessure, mais il ne disait rien de trop spécial par rapport à ça. Puis là, je le vois courir, il y a un bracelet noir en haut sur l'épaule, sur le bicep gauche. Je ne sais pas s'il est vraiment pas à 100%, puis c'est pour ça que Justin Herbert ne le vise pas, mais c'est quand même inquiétant. Là, maintenant, ils ont plusieurs targets avec O'Marion, Quentin et Keenan Allen. Ça va être difficile de truster McConkey si ça continue comme ça. Je laisse encore une chance avec Washington la semaine prochaine. mais plus que ça va aller, plus que ça va, ça s'aligne pas bien. Là, je trouvais qu'il n'était pas sur la même page que Justin Herbert. La deuxième interception, justement, là, c'était comme un tracé croisé. Tout le monde s'est rentré dedans. Gerald McConkey était sur le cul. La passe s'est ramassée 15 verges plus loin. C'était une interception. Puis sinon, ben, pour le premier pick de Justin Herbert, c'est un jeu incroyable du lineman, un peu à la Max Crosby qu'il y a eu aussi, là, que, un ouais. type, puis directement dans ses mains, puis il est parti à courir.
TJ Watt, même affaire.
Ah, TJ Watt.
Ah ouais, fait qu'il y en a eu.
Je pense qu'on va donner les Steelers, on va donner les crédits des Steelers.
Non, mais en plus, je dis dans la vie que ces interceptions-là sont rares, tu sais, puis il y en a eu trop dans
pour lui,
il y en
a eu 8
dans
cette dernière.
C'est quand même fou, là. Ben, props à Justin Herbert qui a réussi à faire une remontée pour aller chercher le gars de 365 livres qui a couru, genre, sa vie, genre. J'ai jamais vu un gars courir vite de même à ce point-là, mais en tout cas, il était content d'avoir le ballon dans les mains. Mais non, mais le résumé de la game, pour vrai, bonne défensive des Giants. Dart, il faisait des. Ben, premièrement, sa course de 15 verges pour le premier touchdown de la game a fait un changement, mais sinon, il y a comme. Il y a, je pense qu'il y a 5 yards par carry, mais genre, il y a 10 rushs, puis la plupart de ses rushs étaient des 10-12 verges pour des premiers jeux. Ça a écoulé le temps. Comme tu dis, Marc-André, ça a été. Une game très simple. Je pense que Brian Daboll, il a dit à Justin Dart, garde ça simple, des passes vraiment incisives, là, en ligne droite, pas trop de longues passes. Malheureusement pour lui, ça vient avec, comment je pourrais dire, un shadow sur sa performance. C'est qu'il a comme, ben, sans le vouloir, il a lancé une deep pass à Neighbors, puis un peu dans le même style que Tyreek Hill, Tony CL, fini pour la saison, un des meilleurs receveurs jeunes de la ligue. Ça va y faire mal, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. La game, c'est vraiment écoulé. Exact. Ben, puis Darius Slayton aussi. Darius Slayton, ouais, ça va être un waiver wire à checker pour ceux qui ont ben, des blessés comme moi. Puis sinon, c'est à peu près ça. Ils ont couru, man. Ils ont couru, genre, je pense, 42 fois pour à peu près 20 tentatives de passe, si je m'abuse. Fait que ça a écoulé la game vraiment rapidement avec les deux turnovers de Justin Herbert. Puis pif, paf, pouf, je pensais qu'on avait une chance de gagner après le premier quart, après la première demi, je veux dire, quand c'était rendu 13-10 avec la magnifique passe à Justin Herbert pour le touchdown à Quentin. Et finalement, on n'a jamais été capable de rattraper. Puis Herbert, sérieusement, sans le vouloir.
Une question pour toi, dans le fond, c'est que tu as vu les Giants avec un nouveau corps, jeune corps.
Exactement.
Il y a un souffle d'espoir. Est-ce que tu sentais l'équipe motivée à jouer? Tu sais, même si on a perdu Neighbors, est-ce que oui, la victoire, c'est sûr qu'une victoire, c'est la statistique la plus importante pour un corps, surtout pour son premier départ. Fait que ça sécurise beaucoup et ça met en confiance l'équipe. Mais outre ça, la façon dont il jouait, c'était pas très inspirant avant. Est-ce que tu as senti qu'il était derrière le jeune corps et que c'est plus inspirant? Ou tu t'es dit juste un match sans trop éclat, ils ont roulé le ballon, puis ils ont laissé couler le temps. Comment tu t'es senti face à leur performance quand ils étaient au ballon?
Clairement, il y avait un engouement. Là. Jackson Dart, sa première game à vie, le monde attendait juste ça. Moi, j'ai été surpris quand j'ai appris que Wilson, après seulement 3 games, était mis sur la touche. Surtout qu'à sa deuxième game, malgré la défaite, je crois, a connu une de ses presque meilleures games en carrière avec 454 verges. J'étais comme, moi, dans ma tête, au début de la saison, précision, on en parlait aussi avec Lozé, j'étais sûr et certain qu'il allait jouer au moins 10-12 semaines jusqu'à temps que vraiment le portrait soit vraiment hors des séries, puis là, tu rentres ton jeune carrière et compagnie. Mais j'ai trouvé ça très intelligent de leur part de l'embarquer si tôt, parce que ça sert à quoi de perdre du temps avec Russell Wilson, tu sais.
Exact. Ça se peut-tu que Brian Daboll, il commence à sentir peut-être que tu peux l'oser parler de guillotine tantôt, là, mais il sentait peut-être que c'était sa tête la prochaine à aller sur le bio aussi, là, peut-être. Là.
Ah, absolument.
Ben, c'est sûr, mais tu sais, exactement. Puis à 0-3, là, regarde. À New York, c'est une game à la maison, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, à un moment donné, tu veux donner de l'espoir pour le futur à tes partisans. Là. Moi, je suis allé justement il y a 2 ans, petite anecdote de même, je suis allé il y a 2 ans voir les Giants, justement, contre Seattle. Ils sont fait lessiver le pick 6 par-dessus, en tout cas, peu importe. Je sors de là au troisième quart parce que la veille, je suis allé voir les Jets contre PC. Sors de là au troisième quart parce que ça m'a pris 2h30 retourner à l'hôtel parce qu'il y avait tellement de monde pour les autobus. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que là, l'autre game, le massacre, je me suis dit, moi, je m'en vais de là au troisième quart. J'ai dit, ciao, mes chums, je m'en vais tout seul, je m'en fous. Je suis parti, j'ai embarqué dans un autobus, puis il y a une fille qui pleurait à côté de moi, puis j'ai dit, hey, ça va-tu, t'as-tu quelque chose? T'es-tu correct? Elle dit, non, je suis juste allé de perdre. Fait que ça te donne Si, j'ai fait OK, finalement, il n'y a pas de problème, t'es correct, mais tu vas t'en sortir. Mais j'étais comme, ils sont vraiment tannés de perdre là-bas. Là. Les partisans sont vraiment là, écœurés vers raides. Fait que de leur donner un petit bonbon de même en début de saison quand c'est 0-3, je pense que c'était
parfait. Je pense qu'ils ont deux bonbons, Marco, hein, parce que aussi il y a le nouveau running back Scadbo qui est très inspirant, fait des blocs courts, il a l'air énergique aussi.
Ben, je suis pas un grand fan de Scadbo.
Ouais, moi non plus pour l'instant. Non, mais,
honnêtement, ça serait juste de moi. Si Tyrann Tracy serait en forme, je pense qu'il serait meilleur.
Ouais,
mais bon, oui, c'est un bon bloqueur. Oui, il l'aime bien. Il a une personnalité quand même très flamboyante, si on peut dire. Puis, mais regarde, comme je te dis, ils ont écoulé la game vraiment rapidement. Puis, sur les 25 carries, il y a eu 25 carries. Puis, tu sais, oui, il y a eu des belles courses, mais honnêtement, pas un game changer. Là, c'est 3 verges par carry, à peu près. Fait que c'est pas. Je pense pas que ça va être un running back qui va être numéro un longtemps dans la ligue, mais ça, c'est mon avis, mais on verra bien.
Ah non, je parlais plus d'une jeune recrue qui donne espoir peut-être aux partisans.
Oui, ben exactement. C'est sûr que c'est
il remplace pas Barkley, il n'est pas remplaçable, c'est un cas unique, là, c'est un grand des grands. Là. On ne va pas le comparer à son prédécesseur, au moins, ça a l'air que pour les fans, eux l'apprécient bien, fait que c'est le fun pour eux aussi.
Ouais. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine fois. Vas-y. Pour revenir sur Dart, là. Vous avez pas mal, super bien résumé. Puis moi aussi, comme Marco il a dit, on a eu des discussions. Puis on pensait, tu sais, je le voyais rentrer milieu de saison, fin de saison, parce qu'on n'est pas des grands fans de Russell Wilson. Puis je trouve que c'est un beau coup de l'organisation. Justement, tu sais, les fans des Giants, pauvres fans des Giants, tu sais, qui souffrent année après année, qui pleurent dans le boss, des affaires de même. Tu sais. non, mais par contre,
c'est ça comme si t'es connu.
Au-delà d'être un beau geste, je trouve que ça a été un méchant pari, par exemple, de pitcher ton gars en dessous du boss
contre les Chargers.
Contre la défense red hot des Chargers. Comme ça, ça a été surprenant. À la limite, la semaine prochaine, je pense qu'il pognait une équipe faible de mémoire week 5. À la limite, tu t'attends à ça. OK, ils vont être 0-4, probablement, ils vont perdre contre les Chargers. OK, contre. Non, right on contre la défensive qui, à ce moment-là, avec Green Bay, était peut-être la meilleure dans la ligue après 3 semaines.
Je te confirme, je suis contre les Saints la semaine prochaine. Ouais, ça aurait été facile de dire comme on les met contre les Saints.
C'est ça, exactement. C'est ce que j'avais
à Nouvelle-Orléans, par exemple.
Oui, l'Ozette, je crois que moi, ça aurait mis du shadow.
À domicile, t'as assez un peu. Peut-être que le fait qu'ils soient à domicile a peut-être penché dans la balance. Mais bon, tu vois, il n'y a pas juste eux autres qui vont prendre
l'entrée en Saints. Ironiquement, les Giants qui vont chercher ce match-là de la façon que les Chargers gagnent leur match normalement.
J'ai cru jusqu'au bout, puis finalement, ils ont réussi à manager de gagner ce game-là. C'était fou. Puis tu vois, là, avec le move de Dart, là, Cleveland va emboîter le pas sûrement cette semaine. Vous allez sûrement voir Dylan Gabriel starter la game et non Joe Flacco. Donc, ça, le monde, je pense, commence cette année.
Mais là, dans le fond, ça fait le tour un peu du match. Ouais. Sur le même matin, là, on va passer maintenant à l'oser avec les Chiefs contre les Ravens. Deux équipes qui étaient à une victoire de défaite. Personne ne veut être 1-3, surtout pas les Chiefs et les Ravens. Mais une des deux, sauf s'il y a une nulle, hein, ça existe, on s'en est rappelé. sauf s'il y a une nulle, personne ne veut être à 1-3. Donc, est-ce qu'on allait revoir les Chiefs d'avant, plus convaincants? Est-ce qu'on allait voir les Ravens qui voulaient faire amende honorable? On a eu quoi, Marc-André? Fais-nous un petit topo, puis ensuite, Lozé, ton analyse.
Alors, les Chiefs l'emportent facilement 37-20. Ça a été un massacre. Les Ravens, c'est pas compliqué, ont marqué un touché à leur première drive. Ensuite de ça, ils n'ont rien fait. Là. Ça a été l'hécatombe. Interception, dégagement, turnover on down, fumble, leurs 4 possessions suivantes. Ils ont eu un total de 3 turnovers on down dans le match. Pendant ce temps-là, Casey, après le premier touché de Baltimore sur la première drive, c'est pas compliqué, Casey a fait field goal, TD, TD, miss field goal, TD. La game était classée, c'est pas compliqué. Les Ravens n'ont juste pas été capables d'arrêter Casey dans ce match-là. Xavier Worthy au retour, 38 verges au sol, 83 verges par la passe. Lozé, à toi.
Ben moi pour les auditeurs, en toute transparence, normalement, on parle des matchs qu'on a regardés. Moi, ce dimanche, j'avais un pool de hockey. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu en entier. Par contre, je le suivais sur mon cell. On ne dirait pas que je le suivais sur mon cell pendant que je conduisais, mais c'est pas grave, on ne dit pas ça.
De toute façon, il n'y a aucun policier qui écoute.
Okay. Ben non, c'est ça, exactement. C'est ça. non, mais sans farce, vous savez, mon amour propre pour Mahomes, Lamar, les Ravens, les Chiefs, selon moi, c'est facilement le match-up de la semaine. C'est le match-up que tout le monde attendait. C'est qu'est-ce qu'on voulait voir? Est-ce que la défense des Ravens va finalement arriver à arrêter quelque chose? La réponse est non. Est-ce que, tu sais, la semaine passée au podcast, j'ai parlé de le mini spark qu'on a senti des Chiefs en deuxième demi contre les Giants. Tu sais, c'était pas grand-chose, mais tu sais, c'était juste une drive qui était plus Chief-like des autres saisons. Une coupe de bonne course, une coupe de passe, une coupe de bonne course, puis whoop, easy touchdown, ils reviennent, easy touchdown, ils reviennent, field goal. C'est comme un mini spark, ça restait contre les Giants dans un match qui était relativement serré. Fait que là, whoop, est-ce que, tu sais, on a parlé du jeu défensif de Mahomes la semaine passée, tu te rappelles, Marc?
Ouais.
Julien, tu sais, qui avait été cherché après que le ballon, c'était comme un back pass.
Oui, c'est battu, il est allé chercher la balle des mains du défenseur.
Exactement, exactement. Puis on s'est dit, est-ce que c'est ça que les Chiefs avaient besoin pour... Tu sais, des fois, là, quand tu es tout le temps trop bon, il y a une couple d'équipes de même dans certains sports. Puis là, pour X raisons, cette année, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Le jeu au sol ne fonctionnait pas. La passe ne fonctionnait pas. Ben, évidemment, les blessures, mais ça fait partie du match. Puis là, whoop, le mini spark, il arrive en deuxième demi, des belles drives. Ah, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine contre une défensive qui cherche? Ben là, je vous le dis, gang, je pense que là, avec la défaite en plus des Chargers qui fait mal contre les Giants, je pense que Casey viendra de reprendre possession de la division. Là, je vois pas. En tout cas, c'était un Patrick Mahomes.
Des beaux jours, là.
Des beaux jours. C'était une attaque des Chiefs des beaux jours. J'ai eu beaucoup de discussions avec Marco là-dessus. Pas assez d'utilisation envers Pacheco, ça. On est tous d'accord là-dessus. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le gars, il a une moyenne par verge, de verge par carry relativement correcte depuis le début de la saison, mais il n'est quand même pas utilisé. Là, il était un petit peu plus impliqué dans le game plan parce qu'il a attrapé deux passes, il a fait un toucher par la passe, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On ne sait pas, mais par contre, overall, je pense que Mahomes, il a dit alléluia d'avoir enfin un receveur de passe pour lancer le ballon down the field. Worthy, 5 réceptions, pas une affaire de 12-13, mais tous des jeux avec beaucoup de signification. Des passes de 20 verges, des passes de 25 verges. Il est impliqué au sol aussi, Worthy, une course de 35 verges. Je pense que là, tranquillement, pas vite, c'est sûr que ça va dépendre. T'es pas à l'abri d'un mauvais match quand tu joues mal depuis un mois. Par contre, on dirait que la machine, elle a recommencé à être bien huilée. Fait que j'ai bien hâte de voir le prochain match qui s'en vient. Est-ce que Mahomes va être encore on top of his game? Mais cette semaine, extrêmement encourageant pour ceux qui suivent les Chiefs, ceux qui... vraiment désolé pour tous ceux qui ont callé depuis un mois que c'était la fin de Patrick Mahomes.
Qui faisait pas une série.
Que c'était la fin des Chiefs. Ouais. Parce que là, c'était un statement cette semaine.
Il dit pas encore, moi, ça.
Non, mais écoute, il n'y a jamais rien d'impossible. Mais par contre, il y avait la chance cette semaine de mettre un statement. Et même si la défensive des Ravens n'est pas bonne depuis le début de la saison, c'est une équipe qui score 37 points par game.
Ils n'ont rien donné.
Ils n'ont rien donné contre l'attaque qui était la plus performante depuis le début de la saison. Puis en plus de ça, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Puis c'est marqué à chaque drive, sauf leur première possession. Ouais. Honnêtement, un match... tu sais, le deux semaines, Marc, je t'ai dit, après la déconfiture de Détroit contre Green Bay, ils ont joué un match parfait.
Ouais, c'est ça.
Ben là, Casey, ils ont joué un match parfait. Fait que est-ce que ça va venir avec une autre bonne performance? Ben, hâte de voir. Par contre, pour ceux qui délivraient les Chiefs, qui disaient que la dynastie était finie, on dirait que ça vient de raviver une coupe de feu. Là.
Je vais te lancer des fleurs, Lozé, là, pour vrai, ce qui s'est passé dimanche, tu l'avais calé presque point pour point la semaine passée dans le podcast, pour ceux qui l'ont manqué. Là. Lozé, tu avais dit, les deux équipes à 1-2, ce match-là, il est plus important pour les Chiefs que pour les Ravens. Les Chiefs, justement, tu avais parlé du petit étincelle, comme tu as lu Big Time, fait comme je t'envoie ça, tu es aussi le seul qui a appliqué ici dans ce match-là, dans nos pics. Tu l'avais vu venir Big Time, puis chapeau, vraiment.
Ouais, parce que c'est un peu fan de Casey que le
basket. Non.
C'est un fan de Lamar aussi. Là.
C'est dit dans le podcast que en tant qu'équipe, j'aime mieux Baltimore que Casey. Par contre, Marco sait que je ne fais jamais de prédiction avec mon cœur ou le moins possible. Non, j'essaie d'être le plus neutre quand je fais des choix dans mes fantasy, dans mes bets. Écoute, c'est sûr que là, ça a fonctionné. Là, c'est gentil de me dire ça. Ça aurait pu être le contraire. La seule chose, c'est que j'avais le feeling que pour moi, ce match-là était plus important pour Casey envers les potentiels de gagner la division. Puis ils sont arrivés avec une équipe qui n'avait pas le choix de gagner. Puis ça a été le résultat escompté pour eux.
J'ai une question pour toi, mon Lozé, pour le fun. Là, tu peux-tu même dire, là, toi qui es un grand fan de la mort, là, tu peux même dire qu'est-ce qui se passe quand il joue contre... Tu sais, il est bien bon, bien beau, puis bien fort contre des équipes sous-moyennes puis des équipes de bas de classement. Là. Mais quand il arrive contre des équipes...
OK, juste avant que tu finisses ta question, Lamar a battu 9 équipes en saison régulière qui a fait les playoffs le 2 ans, un record de la NFL. L'année passée, c'est lui qui a eu la cédule la plus tough. Il a fini à un match d'avoir le bail encore dans l'AFC. C'est le joueur qui bat le plus d'équipes qui sont en série.
Mais par contre, c'est pas Lamar le problème. Là. Il donne 40 points par game, la def des Ravens.
Non, mais Marco, il
marque. Pour être un QB élite puis être considéré comme. Il est censé être générationnel, on s'entend tous là-dessus, puis c'est un des meilleurs de sa génération.
Je vais commencer tout de suite. Pourquoi vous me parlez tous de Josh Allen quand il est 0-4 contre Casey en playoff?
Non, ça c'est sûr. Mais la
mort,
il est 1-6 aussi contre
Casey. Marco, j'aurais dit que tu me parles de Lamar. Losez, Marco, je vais vous arrêter les deux. Par contre, sinon, de toute façon, on va regarder les actions.
Mini parenthèse. Julien, je sais que tu ne veux pas que je déborde dans le temps. Par contre, mini parenthèse, à tous ceux qui suivent des groupes sur Facebook qui parlent de football, que ce soit Fantasy ou n'importe quoi d'autre, si vous aviez vu le nombre, parce que je suis dans beaucoup de groupes, si vous avez vu le nombre de commentaires dégueulasse, déplacé, désobligeant envers Lamar après qu'il a été retiré du match en disant qu'il a mal à son ego, il laisse ses coéquipiers derrière lui, qu'il fake une blessure, que si, que ça. Ben là, c'est sorti aujourd'hui qu'il va manquer minimum une semaine, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Fait qu'à tous ceux qui ont dit ça, mangez toute la merde. Connaissez rien au football.
Losé, en fait, j'ai apprécié ton commentaire, je le salue. J'apprécie pas Marco. Okay?
Cet épisode contient des opinions.
Marc-André, c'est dur pour Marc-André, pas me couper parce qu'il aime ça. Mais par contre, c'est juste, j'aimerais ça juste mettre un petit point. Non, j'aime ce qu'on vient de vivre parce qu'on ne le vit pas souvent dans le podcast parce que Marc-André et moi, on est plus du genre à. On va dire ce qu'on pense, dans le respect, on n'est pas en accord, mais on va essayer de comprendre la position de l'autre. Le but, ce n'est pas un concours de qui a le plus raison. Puis, Lozé, j'ai aimé ton interaction quand tu as dit « ça aurait pu ne pas se passer comme je l'ai dit ». C'est qu'on dit ce qu'on voit pour des raisons, des fois, qui sont intrinsèques. On a vu beaucoup de football, on connaît un peu. Puis des fois, c'est dur à expliquer, puis on a un feeling. Puis, des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas. Mais plus souvent, on a raison que pas raison. Puis, c'est vrai que dans le sport en général, il y a un fléau en ce moment. Les gens, c'est pas juste qu'on souhaite du bonheur pour notre équipe, c'est qu'on souhaite du malheur aux autres, puis on est tanné quand quelqu'un gagne trop. Fait que c'est facile de donner des statistiques ou donner des narratives contre un joueur, c'est très facile. Par contre, c'est très difficile d'appuyer une position pour un joueur sans nécessairement se faire interrompre parce que ça prend des chiffres. Tout le monde a une mauvaise semaine, puis là, un exemple va venir contredire tout notre argumentaire d'avant, alors qu'il y a des hauts et des bas pour toutes les performances. Il peut y avoir des années, il peut y avoir 2-3 semaines où ça ne se passe pas bien. Mais par contre, c'est sûr qu'ici, dans le podcast, on essaie d'être positif puis juste envers tout le monde. Si un joueur qui n'est pas bon, on peut le dire, mais c'est jamais méchamment. On le compare aux autres de sa position, puis on essaie de ne pas nécessairement juste s'écœurer avec ça. T'sais, c'est sûr qu'on le fait un peu à bonne franquette.
C'est juste une question, mais
j'apprécie quand même l'interaction qu'on vient d'avoir.
Mais il a mis un doigt sur une vraie chose.
Exact, que les gens disent.
Sans que ce soit péjoratif envers Lamar, Casey est clairement le némésis de Lamar. Comme n'importe quel grand sportif a...
Allons-y, check ta connexion, ça griche un peu. Tu as vu ton fil.
On remercie Marc-Alexandre Fichy de m'appeler en ce moment.
C'est pour ça que ça griche.
Ouais, ben j'ai refusé l'appel. C'est mon chum Fichy, justement. Je pense qu'il va me parler de
Lamar. Ça marche pas encore.
Ça griche encore, je dis.
Dans le temps, c'est vrai que dans certains groupes, les gens vont être dégueulasses ou sales. Puis les réseaux sociaux, c'est pollué de commentaires haineux. Des fois, des menaces de mort, des gens qui parient trop, puis quand ton pari ne va pas dans ton sens, les gens, des fois, exagèrent. Mais je suis content qu'on puisse, c'est rare qu'on ait la conversation en onde. Losé, termine ton point, on va voir si ton micro fonctionne bien maintenant.
Ouais, c'est mieux, là?
Yes, sir.
C'est parfait, ouais.
Ça. OK, parfait. C'est mon chum Piché qui m'a appelé, parce que ça a tout fucké les affaires.
Ouais, il m'a appelé, moi, avec. As-tu d'abord?
Bon, non, dans le fond, ce que je disais, c'est que beaucoup d'équipes qui ont la bête noire, la fameuse bête noire. Au football, c'est facile de dire un contre un. Écoute, aussi bien dire Peyton Manning envers Brady, ben, par exemple, pas en série, parce que Manning est 3-2. Par contre, ça a été ça toute sa carrière. Tu sais, il a toujours été un peu dans le shadow de Brady parce que Brady gagnait plus souvent que lui en saison régulière, surtout. Évidemment, le nombre de bagues. Fait que, tu sais, Lamar envers Mahomes ou Casey, c'est vrai, il est 1-6 contre cette équipe-là. Est-ce que ça y joue dans la tête? Moi, je ne suis pas un grand croyant de ça parce que je pense que les meilleurs, ils arrivent sur le terrain en voulant prouver une chose qu'il est capable de débattre. Par contre, il perd contre le meilleur QB, possiblement le meilleur QB de l'histoire. On le saura à la fin de la carrière, ou au minimum déjà top 3. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose d'être down contre... Tu sais, moi...
Ouais, puis Mahomes, il vient d'avoir un record aussi, le plus jeune carrière de l'histoire à avoir 250 passes de toucher.
Exactement. Wow. Tu sais, mes contre-arguments pour calmer les ardeurs envers Josh Allen, jamais que j'ai détesté Josh Allen. J'aime pas le overhype sur ce gars-là, mais j'ai jamais détesté le joueur. Il est extrêmement bon. Par contre, pourquoi que si on entend les argumentaires de dire « OK, Lamar est 1-6 », pourquoi on n'entend jamais dire « Josh Allen est 0-4 contre Mahomes en série »
On l'entend souvent.
Ça. Ah, c'est... Ça
dépend qui tu parles, mais moi, je l'entends souvent.
Le narratif est beaucoup... Lamar
le narratif de toujours... Baby... dans le fond, c'est comme... Il y a un narratif là, comme si Josh Allen, c'est le père de Lamar... Mais par contre, Patrick Mahomes, c'est le grand-père. Voilà. C'est comme le.
Mais tu sais, le narratif est souvent que Lamar n'a pas eu beaucoup de love au travers de sa carrière, autant qu'il aurait dû avoir. Parce qu'il a commencé sa carrière.
On a comparé comme à Cam Newton, à Michael Vick, c'était comme les autres, un one and done. Les gens pensaient que ça allait durer une saison, mais là, ça allait 2, 3, 4, ainsi de suite. Puis là, on fait OK, finalement, il le fait constamment. Puis en plus, ses passes deviennent de qualité. Meilleur passer rating au courant des saisons. Il a vraiment bien amélioré. Ses stats ont toujours augmenté en termes de qualité de passe. Completion percentage, des passes à risque, pas juste des petites passes à 5 verges de loin. Il est tente. Puis souvent, ce qui l'a coulé, c'était des erreurs comme beaucoup de drops de ses receveurs par le passé. J'en parlais en début d'année. Là, ce qui le coule, c'est sa défensive. Une statistique qui me déplaît, c'est souvent la victoire ou la défaite est attribuée au corps arrière, malheureusement. Mais c'est un ensemble de facteurs. Il y a 53 joueurs. Puis là, en ce moment... Il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Il y a des choses à se reprocher un petit peu. Peut-être des certains jeux à cliner. Peut-être des meilleures décisions par moment. Mais la défensive, il ne laisse pas de lousse. Puis, chapeau aux Chiefs. Tu en as parlé un petit peu, Losé, puis je vais faire du pouce là-dessus. D'avoir joué un match où est-ce qu'ils n'ont pas slacké à la fin, puis ils ont piétiné, puis ils ont gardé le pied sur les Ravens. Ça reste avec un différentiel de 17 points. Ils n'ont pas fait, ils ont pas comme, oh, on va les laisser plus de temps, on va leur donner des points, puis ils gagnent une confiance. En fait, non, on va mener ce match-là jusqu'à la fin parce qu'on risque de les revoir en play-off. Puis en playoff, on ne sera pas de cadeau. Fait qu'aujourd'hui, on ne vous donne rien. Puis ils ont tenu un match jusqu'à la fin. Puis j'adore le match que les Chiefs ont joué pour cette raison-là.
C'est extraordinaire ce que tu viens de dire là. Parce que si la semaine 1, Baltimore avait eu la même mentalité que Casey dimanche, Buffalo ne faisait pas le comeback au quatrième quart.
100%.
Garanti. Ouais. Tu continues à piétiner. Pourquoi tu arrêterais? Les gars sont payés des millions. Joue ton match, continue à mettre de la pression. Puis laisse pas l'autre équipe, surtout quand tu joues contre un corps extraordinaire, laisse pas l'autre équipe avoir une chance de revenir dans le match.
Espoir, on n'a pas de momentum. C'est ça. Mais non, mais Marco, merci d'avoir steer le pot à Closé. Ça a fait une belle discussion. On a débordé, mais c'est pas grave du tout.
Ça va lui faire.
Closé est capable d'en prendre. Il y a ses stats pour backer ses dires. Non, c'est bien. C'est bien correct. Tantôt, j'ai dit, j'ai pas mis ton commentaire, mais c'est juste pour steer le pot un peu. Mais moi, comme je suis pas habitué, je suis maladroit, ça a mal sorti.
Je suis capable d'en prendre aussi.
C'est sûr que t'es maladroit, t'es un fan des Steelers, on va se dire.
Mais c'est pas moi qui fumble, là. Ça, c'est les Ravens, là. Okay? Bon, ceci étant dit, là, maintenant, prochain match, on va vous parler. Puis ensuite, un peu qu'on avait fait il y a quelques semaines, comme on est quatre, on fera une deuxième émission, on fera un deuxième segment. On va terminer, dans le fond, avec le segment de Marc-André, un peu de segment des divisions. Puis ensuite, dans un autre épisode, on va vous parler, dans le fond, de nos prédictions de la semaine suivante. et aussi de quel match à surveiller. Mais avant tout, là, on va parler d'un match prime time qu'on n'a pas beaucoup parlé. Les Cardinals qui avaient une bonne fiche, mais n'étaient pas impressionnants. Blessure, dans le fond, là, à leur carrière partant. Puis là, c'est running back partant. Les Seahawks avec une bonne défensive, des jeunes qui avaient un beau projet, qui ont eu un bon début de saison. On se demandait qu'est-ce que ça allait donner, des rivaux de division en prime time jeudi. J'ai vu le match, j'ai pas regretté du tout ce match-là. C'était un super beau spectacle. Marc-André, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ensuite, ton analyse à toi-même. Passe-toi la puck.
Voilà, je vais me passer la puck à moi-même, mais en gros, les Seahawks l'emportent 23-20. En première demi, Arizona n'a absolument rien généré. Là, c'était une domination totale des Seahawks en première demi. Par contre, la défensive des Cards a quand même gardé le match serré. On s'est retrouvé en fin troisième quart et c'était 17-3 pour Seattle. Et on en a parlé dans le podcast, dans les podcasts précédents. Quatrième quart, la défensive des Seahawks a commencé à jouer mollo. Ça a permis aux Cards de revenir dans le match et ça a pris un field goal sur le dernier jeu du match de Seattle pour l'emporter 23-20. Donc, je me passe la poque à moi-même, donc je continue mon analyse. Mais pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Kenneth Walker dans ce match-là. Je trouve qu'il a vraiment eu une grosse empreinte dans ce match-là. Quand même, des statistiques quand même intéressantes. 81 verges au sol, 29 verges par la passe. Par contre, j'ai moins aimé le match de Sam Darnold. Dans le sens où, si on regarde ses statistiques, c'est un match qui fait beaucoup de sens. Le 18 en 26, 242 verges, 1 TD, pas de pic. Par contre, j'ai trouvé que Sam Darnold, puis tu sais, l'année passée, il y a eu une superbe saison avec Kevin O'Connell à Vikings, qui est peut-être l'entraîneur-chef le plus sous-estimé de la NFL. Kevin O'Connell, je pense qu'il est peut-être dans les top 3 head coach offensifs de la NFL. Je pense que Sam Darnold, c'est un QB de système, mais c'est pas un très bon QB. Puis je pense que dans ce match-là, ça l'a paru parce qu'il n'a pas été capable de faire la drive qui aurait mis le clou dans le cercueil des Cards. C'était toujours « Ah, oh, OK, une petite passe, mais il n'a comme pas été capable de peser sur le champignon comme pour accélérer son attaque. Un peu comme on disait que Mahomes, il dit comme « Non, non, on continue. » J'ai l'impression que l'attaque des Seahawks a vu que l'attaque des Cards ne générait absolument rien. Fait qu'ils ont dit « Ah, ça va être un petit gain facile, on se la prend relax. » J'ai pas aimé que Smith and Jaiba n'a pas été du tout impliqué dans le plan de match des Seahawks. J'ai pas du tout aimé ce play calling-là. Pour vrai, il finit le match avec 4 catches, 69 verges, mais toutes ces catches sont arrivées au quatrième quart quand il fallait que les Seahawks fassent un field goal pour revenir. Au premier demi, on ne l'a pas vu du tout. Donc, j'ai pas tant aimé le plan de match des Seahawks. J'ai pas aimé leur intensité. Ils ont une bonne défensive, mais je vous avoue que pour avoir regardé le match au complet, je pense pas que les Seahawks vont être capables de compétitionner contre les Rams pour le sommet de leur division. Ils vont peut-être se classer comme wild card, mais il manque des éléments à cette attaque-là. Il manque un corps arrière. Puis je trouve que côté coaching, j'ai pas aimé tant le coaching de cette équipe-là.
Si tu dis ça, ces stats-ci, c'est que tu vois pas la progression dans les prochaines semaines. On reste quand même juste après quelques matchs seulement, c'est 4 matchs.
En fait, c'est que pour moi, Sam Darnold, je sens pas que Sam Darnold, c'est un QB qui peut être meilleur que ce qu'il a offert nécessairement dans ce match-là. C'est un gars de système, c'est un gars qui va faire les petites choses qui te mettra pas dans marde, mais c'est pas le gars qui va step up puis qui va sortir une game de 400 verges quand t'en as besoin, un peu comme Mahomes a sorti cette semaine. Il a pas fait 400 verges, mais dans le sens que Mahomes, il a vraiment step up cette semaine.
Ouais.
Je sens pas que Sam Darnold est capable de faire ça.
Il peut pas aller jouer un match. Là.
Puis je sens pas qu'il y a les armes non plus, parce qu'à part Smith and Jigba comme receveur, il y a pas, tu sais, il y a Cooper Kupp qui peut te faire quelques petits caches, mais t'as pas nécessairement énormément d'explosivité à l'attaque. T'as une bonne défensive, mais je sens que l'attaque est plutôt limitée à Seattle de ce côté-là.
Les gars, avez-vous vu le match? Voulez-vous réagir à ce que Marc-André vient de dire?
Ben moi j'ai été vite de même. Je suis entièrement d'accord, surtout sur le point de JSN. Je comprends pas qu'un gars qui était top 3 wide receiver depuis le début de la saison en réception, en verge, comment que tu peux arriver dans un match de division que tu sais que ça va être dur de gagner contre une bonne défensive? Puis que tu n'impliques pas ton meilleur joueur. Ouais. Ça, j'ai vraiment de la misère à le comprendre. Tu sais, ils ont gagné le match, c'est bien beau. Ils ont été chanceux que le kicker de Arizona est complètement.
Oui, l'erreur, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais.
Écoute, ça n'a aucun bon sens. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Là? Au pire des cas, manque-le long, mais je ne manque jamais ce choix.
Cool, ben non.
Il reste 18 secondes au cadran. Mais j'arrive pas à... Écoute, ça arrive des matchs où ce que les gars sont moins bons que d'autres matchs. Ça arrive, c'est comme n'importe qui peut avoir une mauvaise journée au travail. Mais GSN, même s'il y avait eu un match moins bon, des affaires d'attraper contesté qui ne fait pas, ou à limite un drop, non, aucun target avant la fin du troisième quart.
Ouais.
Il y avait eu deux petites courses des sweeps. Je comprends pas ça. Puis, ouais,
Charbonnet est revenu, puis ouais, vas-y.
Non, mais je comprends pas ça. Puis honnêtement, j'étais un peu déçu, pas parce que j'avais pris Arizona, puis pas en tout. Je trouve que quand un coach agit de cette façon-là avec ton meilleur joueur dans un match que tu prévois être relativement serré, puis que tu n'impliques pas ton meilleur joueur, tu mérites de perdre, 100%. Moi, ouais. ça m'a toujours dépassé. C'est arrivé maintes fois par le passé d'autres équipes. T'es comme, le gars, il est clear-cut ton numéro 1. Tu sais, c'est pas comme, OK, on va prendre un exemple des Chiefs. Worthy, il est blessé. Rice est blessé. C'est qui ton wide receiver 1? Tu sais pas. La première game, c'est Hollywood ça. Brown a été bon. L'autre game, l'autre a été bon. Tu peux pas en vouloir à personne de pas impliquer Hollywood Brown à la deuxième game. Ça reste un wide receiver 3, 4, 5. Par contre, GSN, c'est un wide receiver 1. Ouais.
T'en as pas un autre après que tu non, dis peut-être qu'il pourrait être un.
Non, puis c'est un clear-cut 1. Il serait numéro 1 dans 25 équipes sur 32.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, comment tu peux ne pas impliquer un cas de même? Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Là. Moi, c'est ça qui m'a frappé le plus de ce match-là. Ça, puis l'erreur catastrophique du kicker. Tu peux pas... Hey man, tu fais payer des millions pour kicker le ballon. T'as pas le droit de faire ça.
Vous connaissez mon amour pour les botteurs. Là. J'en parle depuis le début de la saison. Moi, les botteurs, je comprends pas que ces botteurs-là, que tu as juste une job à faire. Comme tu n'as qu'une chose à faire dans ton match, c'est de kicker le fucking ballon.
Ouais, mais ça, Max, c'est pire que
le goal. Ah non, c'est poche.
À la limite, il reste pas beaucoup de temps.
Mais aller dans le fond du end zone.
Dans le fond, puis il prend la petite punition, pas la grosse punition. C'est inconcevable de faire ça.
Ouais.
Marco, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, vas-y.
Ouais, dans le fond, c'est le fun parce que moi, j'ai pas regardé ce game-là, j'ai pas pu. Puis, tu vois, tu regardes, c'est le fun d'en parler et de faire des podcasts comme ça parce que, tu vois, moi, je regarde les stats sur papier. Comme beaucoup de monde, ils vont regarder les stats sur papier. Tu vois, GSN, 4 réceptions, 78 verges. Je fais, ah, OK, il a été sous-utilisé. Mais quand tu comprends que c'est juste les 4 réceptions en fin de game ou en deuxième demi, tu réalises que ça n'a pas de bon sens. T'sais. Mais ils ont voulu courir beaucoup, je pense, parce que tu vois, Charbonnet, il en revenait de... c'était Kenneth Walker les deux dernières games, je pense qu'il était tout seul. Puis là, Charbonnet en revenait. Ouais. Puis ils ont couru 19 puis 12 fois en tout. Fait que je pense qu'ils ont préconisé le jeu au sol par rapport au jeu par la passe. Peut-être que ça fonctionnait très bien la première demi, mais ils se sont peut-être un petit peu ajustés, mais comme ça n'a pas de bon sens parce que GSN, c'est un de mes joueurs préférés depuis qu'il a été repêché avec Ohio State et tout. Puis il mérite au moins 10-12 targets puis 7-8 réceptions par game minimum. Là, minimum. C'est ça.
Oui, parce que. Mais moi, dans le fond, j'aime quand même ce que les Seahawks ont proposé durant ce match-là. Tu sais, à la fin, c'était 14-6, là, mais c'était pas compétitif du tout pour les Cards. Là, ça, il y a eu une passe de toucher de. Marvin Harrison Jr., puis il s'est mis à pleurer parce que c'est son plus beau jour de sa vie. Puis là, j'étais comme, c'est un peu intense, c'est un peu too much. À quel point.
Rapidement, je veux juste parler des Cards un peu avant qu'on enchaîne. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais vu que je n'ai pas parlé des Cards du tout, honnêtement, je comprends que cette équipe-là était 2-0 en début de saison, puis tout. Mais moi, je ne vois pas cette équipe-là participer aux éliminatoires. Il y a trop de lacunes à l'attaque. Pour vrai, en première demi, Murray et Harrison n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Le premier pic de Murray, c'est Harrison qui a complètement arrêté son tracé quand Kyler Murray pensait que Harrison allait continuer. Il y a un jeu où Harrison aurait dû juste sortir vers l'extérieur. Il avait complètement tout seul. Il avait battu le demi-défensif. Il continue tout droit. Murray passe à l'extérieur. Harrison, des drops d'un numéro. Il manque d'armes. Là. Honnêtement, Trey McBride est pas mal tout seul là, à l'attaque cette attaque-là.
Leur division est beaucoup trop forte pour faire
ça aussi.
Mais tu sais, la semaine passée, écoute, je vais me risquer hein, d'un coup que ça fonctionne deux semaines de suite. Mais la semaine passée, on avait parlé d'un mini spark en deuxième demi des Chiefs. Ils sont arrivés à quelque chose de
gros. Ouais.
On s'entend que Marvin Harrison Jr., si vous suivez un petit peu la NCAA, le hype qu'il y avait alentour de ce gars-là était le plus gros à part Jamar Chase des 25 dernières années. Là. On
parle d'un générationnel.
Générationnel, le plus haut niveau générationnel. Là. Honnêtement, ça parlait comme si c'était le nouveau Chase, le nouveau Marvin Harrison Pair. Toutes les meilleurs joueurs que vous avez déjà vus.
Jeremiah Smith en 2027, c'est la même
ouais, c'est ça. Le hype autour de ce gars-là. Fait que, tu sais, il n'est pas devenu moins bon du jour au lendemain. Kyler Murray, sans être un top-tier QB dans la ligue, est capable de jouer. Ben, ce qu'on a vu la semaine passée, Harrison, il drop des passes. Là, cette semaine, drop des passes, fait des mauvais tracés. Ben, qu'est-ce qui est arrivé en deuxième demi? Un énorme catch sur son touchdown.
Ouais.
Puis là, whoop, all of a sudden, toutes les passes dirigées vers Marvin Harrison, toutes captées, il bat ses couvreurs.
La plus, je voulais en parler, la pression qui retombe quand il se met à pleurer pour dire enfin, tu vois, ça il a comme ça. Libéré à ce moment-là.
Lui, tu sais, si nous, on se demande qu'est-ce qui se passe avec Marvin, lui, il se regarde et il dit qu'est-ce qui se passe?
Avec moi.
Je ne suis pas devenu mauvais du jour au lendemain. Fait que, est-ce qu'il y a ce petit spark-là? Moi, j'ai extrêmement hâte de voir le prochain match des Cards pour voir
mais ça. Mais moi, les Cards, par contre, là, je vais être franc avec toi, c'est beaucoup de... Tu sais, tu parlais de feu de paille. Là. Ils ont souvent eu beaucoup de saisons où ils commençaient, mettons, 7-1, 7-2, puis ça s'écroulait en deuxième moitié de saison. Marc-André, puis moi, on les a regardés souvent, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on faisait le podcast à l'époque. Puis Kyler Murray, souvent, là, moi, puis j'en parlais à l'époque, puis la statistique qui me fait le plus suer quand je regarde les matchs, c'est sa distance de verges parcourues quand il gagne, mettons, 32 verges. Puis là, fun fact, il en a couru 78. Puis là, il monte le tracé. C'est comme, il gagne du temps avec ses jambes, mais souvent, il prend des mauvaises décisions. Puis il a l'air ticoune. Puis des fois, il est comme, hey, Hail Mary en fin de match, revenez la gang! Revenez, vous êtes trop loin pour mon bras. Puis là, c'est comme là, il cherche du temps. Des fois, c'est comme des. C'est loufoque, c'est complètement cirque. Puis c'est des. Oui, c'est pas être divertissant, mais je trouve que souvent, il prend pas les bonnes décisions. Puis il met la faute sur ses receveurs. Je trouve qu'il manque un peu de prestance puis d'aura, mais pas le monde à l'aise autour de lui. Souvent, les receveurs qui venaient avec lui, ça se passait pas bien. Comme, ah non, fallait que tu à l'extérieur. Fait que Marvin Harrison, là, les morons de la communication, oui, ça arrive avec lui, mais c'est arrivé par le passé avec beaucoup d'autres receveurs ou de passes aussi. Fait que, amener, t'as eu un problème, là. Il y a quelque chose que toi, tu dois changer. Puis pour Marvin Harrison d'être tombé sur Kyler Murray, parce qu'il y a plein d'autres. Mettons Sam Darnold, il mettait l'année passée, il mettait Justin Jefferson. Puis là, il avait l'air d'un corps élite parce que t'es un wide receiver que même en 50-50 ou en 20-80, là, tu lances la balle, puis il va te faire des jeux, puis tu as une confiance, puis tu garoches la balle. Mais, tu sais, Marvin Harrison est capable d'être cette personne-là, puis toi, tu n'en profites pas, tu n'es pas capable d'en profiter. Puis souvent, tes passes, c'est à ton porteur de ballon qu'il y a comme plus de passes captées, parce que c'est ça, on en parlait, c'est lui qui a le plus de réceptions dans son équipe l'an passé, puis le 2 ans, puis le 3 ans, c'est le porteur de ballon.
Ouais, mais James Conner, c'est pareil avec Pittsburgh. C'est un très bon receveur de ballon. Mais...
Oui, c'est ça. Mais quand c'est lui numéro 1, ton porteur de ballon, ça pose problème.
C'est sûr que quand ton QB est 5 pieds 2, il ne peut pas lancer 1000 verges.
Il est obligé de reculer, vraiment beaucoup pour justement voir ce qui se passe à l'avant. Souvent, le meme que j'utilise, moi, c'est Gamely dans le groupe d'AM qui ne voit pas ce qui se passe en haut.
Oui, c'est ça.
C'est exactement
en VR, la position de Kyler Murray, tu vois juste des fesses.
Exact.
Honnêtement, Julien, moi, je suis zéro en désaccord avec tout ça. Mais moi, quand je parlais d'un spark, je parlais zéro pour l'équipe des Cards.
Pour Marvin Harrison,
c'est vraiment un point de vue fantasy-wise. Mm-hmm. Marvin Harrison, il n'est pas devenu moins bon du jour au lendemain. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis moi, je pense, un peu à l'inverse de toi, sans être un top quarterback qui va te faire gagner des matchs, je pense que Kyler Murray peut en masse feeder un gars qui est aussi bon que Marvin Harrison qui va créer de la séparation à toutes ses routes.
Ouais, puis je veux le voir de façon régulière. C'est ça mon point. C'est pas juste une fois de temps en temps.
Ce que j'ai de la misère avec Kyler Murray, c'est que quand tu fais une passe, il faut t'attaquer la pochette par en avant, puis il ne faut pas que tu recules trop. Lui est obligé de reculer trop ou de se décanter vers la droite, de sortir un peu de sa pochette pour voir ce qui se passe. Puis là, il s'en va vers les lignes de côté, puis là, il prend son temps, puis là, il lance sa passe. C'est difficile aussi de faire la passe comme il faut, puis de justement la recevoir aussi. Fait que... C'est sûr que s'il y avait un Justin Herbert, ça serait peut-être pas la même histoire.
Puis une dernière affaire, là, pour avoir regardé le match jeudi, là, puis avoir un petit peu écouté le background, je peux vous dire une chose. Si jamais le OC, puis je pense que c'est Rich Gannon, leur coach, n'arrive pas à impliquer un peu plus les meilleurs joueurs dans leur game, parce que tout le temps parle qu'ils font plus de passes au running back, mais c'est même pas une affaire de juste Kyler Murray. Les tracés sont juste... C'est vraiment une mauvaise gestion, des mauvais play calls.
C'est Kingsbury. Puis,
je confirme que... Hein?
Non, c'est
Kingsbury avant, dans le sens qu'avant c'était, avant, c'était Kingsbury, puis c'était pas nécessairement mieux.
Mais Gannon, c'est sa deuxième saison. Il était là l'an passé, puis là, il est là cette année, sa deuxième saison.
Il est très, très proche du siège éjectable, lui aussi.
Oh, oui, je pense que oui.
Il va falloir que, il va falloir que les gars soient plus impliqués, les meilleurs joueurs.
Ouais. Arizona, ça a toujours été la même histoire. On dirait qu'ils commencent super compétitifs les premières semaines, puis après ça, tout s'écroule, puis ils finissent. Tu sais, ils vont commencer l'année 3-0, ils vont finir 7-9, puis tu vas faire comme qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais,
ouais, c'est comme est-ce qu'ils s'ajustent? Les équipes s'adaptent à eux, mais est-ce qu'eux s'adaptent aux autres équipes après ça?
Exact, c'est ça. Ben, c'est ce qu'une bonne défensive te permet de faire les premières semaines, d'aller arracher des victoires à gauche, à droite.
L'année passée, c'était contre Buffalo, la première game, j'étais là, puis ils ont compétitionné avec Buffalo tout le long, ils ont tenu. On a gagné ça, je pense, à la fin de la game, puis c'était peine et de misère, là, puis après ça, boum, ils se font clencher par toutes les équipes au milieu de saison, c'est fou. Là.
Côté division, il y a seulement une seule division dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Souvent, c'est deux, là, mais c'est juste une. J'ai envie de faire changement un petit peu. Donc là, dans le fond, dans les divisions, on a quand même beaucoup parlé de la AFC East, la AFC South, on en parle à chaque semaine, donc je ne vais pas en parler avec vous cette semaine. Colts, Jaguars, Texans, Titans, ça attendra. La division que j'ai envie de vous parler, c'est la AFC North, où est-ce que les Steelers sont 3 et 1, les Bengals 2 et 2 avec beaucoup de blessures, avec deux défaites étincelantes, Ravens à 1-3, puis les Browns à 1-3. Marc-André Lozé, tu en as parlé tantôt, mais tu penses que les Ravens, c'était moins inquiétant pour eux. Ma question, c'est à 1-3, est-ce que tu les vois quand même largement favoris pour gagner la division? Ou est-ce que tu penses que les Steelers ils ont assez de momentum pour peut-être maintenir cette position-là? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Comme tu es l'expert des Ravens, la parole est à toi pour commencer, puis les autres pourront réagir par rapport à ça.
Ben là, juste pour te donner une idée, moi j'ai regardé juste de même, parce que des fois, ma curiosité de gambler, de better.
Ouais, les cotes.
Ben justement, la cote pour la division avant que l'information sorte pour Lamar, mais après la défaite, il était encore favori à 1.5. Fait que c'était méga largement favori encore. C'est sûr que dans ma tête, c'est même pas proche. C'est un no-brainer encore parce qu'ils n'ont pas joué un match contre leur division, qui sont les matchs les plus importants pour les tiebreakers et tout. Par contre, là, si jamais Lamar manquait 3 semaines, est-ce qu'ils vont chercher une victoire dans ces 3 games-là? Est-ce qu'ils vont en chercher 2? Ils jouent contre Houston cette semaine, qui ont la meilleure défensive dans la ligue. Après que les Chargers et les Packers se sont écroulés un peu défensivement. On va dire Houston, meilleure défensive pour l'instant après 4 semaines. Est-ce que je pense pas qu'ils peuvent gagner le match simplement avec Derrick Henry? En fait, est-ce qu'ils vont être capables de le faire par la passe? Je pense qu'ils vont perdre cette semaine. Je pense qu'ils vont être 1-4. Après 1-4, dépendamment si Pittsburgh gagne, mais pour moi, ça reste encore une défaite contre une équipe qui est hors de la division. Fait que tant qu'ils ont leurs 6 games à jouer contre leur division, qu'ils peuvent aller chercher 2-0, 2-0, 2-0, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas encore d'affolement. Par contre, si jamais Lamar manquait 3 semaines, est-ce qu'ils vont chercher des victoires dans ces 3 semaines-là? S'il manque seulement 1 semaine, je te dirais tout de suite, aucune inquiétude. Mais là, il commence à avoir peut-être un petit point d'interrogation, parce que là, on ne sait pas s'il va manquer 1, 2 ou 3. Et si jamais il en manque seulement 1, est-ce qu'il va être top shape, mais qu'il revienne? Fait que là, il y a un petit peu plus de question mark dans ma tête.
Puis Marco, t'aimerais-tu réagir à ça?
Dans le fond, ça va dépendre si les Steelers tiennent la route. Puis ils vont avoir 2 games de division, une en décembre, puis la dernière semaine de l'année, en janvier, ça, la semaine 18, c'est aussi contre Baltimore. Donc, si t'es Steelers, ils tiennent la route, puis plus...
Ça se peut que la semaine 18 soit plus importante qu'on pense.
Exact. Ben, ça va dépendre vraiment de la tenue.
On est loin encore?
Ouais, ça va dépendre de la tenue de Pittsburgh, selon leur cédule. J'étais en train, justement, de checker la cédule de Pittsburgh, voir si c'était un peu trop difficile ou pas. Mais, tu sais, c'est faisable. Avec le show que Pittsburgh nous montre en ce moment, leur défensive, peut-être que la game début décembre contre Baltimore va être très importante pour la suite des choses.
Je m'attends à un match serré, puis peu importe le over-under, je vous dis tout de suite, je suis un connaisseur, prenez le under. Le premier match entre ces deux équipes-là, c'est violent. Chaque verge est chèrement payée, les défensifs sont à bloc, ils mettent plus de poids dans le weight room. J'oublierais que c'est quelque chose. Marc-André, ton opinion par rapport à cette division-là?
Moi, je t'avoue que pour les Ravens, ce qui m'inquiète, c'est que par le passé, là, j'oublie son nom, là, mais le QB substitut à Lamar, c'était un QB Cooper qui Rush. Était... Cette année, c'est Cooper Rush, mais les années passées, c'était Huntley, hein, c'est ça. C'est que c'était un QB qui avait, on s'entend clairement moins bon, mais qui avait le même style que Lamar. Cooper Rush n'est pas du tout un QB qui a le même style que Lamar. L'attaque des Ravens est faite pour Lamar. Puis là, c'est comme si tu arrives avec un QB qui n'a pas du tout le même style. Fait qu'il faut presque que tu changes ton livre de jeu. Faut presque que tu changes la moitié ou trois quarts de ton livre de jeu. Fait que c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour les Ravens. Surtout que tu ne peux pas dire « Ah, ben on va se fier sur notre défensive pour les prochaines semaines pour nous garder là. » C'est pas leur défensive qui va les garder là. Fait que c'est la blessure de Lamar est vraiment inquiétante. Puis je t'avoue que les Steelers, je ne m'attendais pas à ça, mais ils sont meilleurs que je pensais. Fait que tu sais, si les Steelers réussissent à aller chercher, mettons, 10 victoires, ça reste quand même que les Ravens, il faut qu'ils gagnent pas mal plus de matchs qu'il faut qu'ils en perdent d'ici la fin de l'année. Là. Fait que c'est loin des choses faites pour les Ravens avec la blessure de Lamar.
Ouais, je pense qu'ils vont y aller par la course un peu plus, puis Justice Hill va avoir beaucoup un rôle à jouer là-dedans, parce que Henry, on pense que Lozier et moi, on pense qu'il va finir par frapper le mur qu'on pense qu'il va frapper depuis 2 ans. Ben,
moi, pour les Ravens, 3 semaines que le mur commence à se rapprocher. Ouais.
Mais avec Cooper Rush, j'ai moins peur parce qu'il y a quand même des bons tight ends avec Likely puis avec Mark Andrews. Donc, tu sais, avec un jeu au sol qui peut être soutenu, parce qu'on ne sait pas si ça va l'être ou pas dans les prochaines semaines, avec un jeu au sol qui peut être soutenu, plus des bons tight ends, on dirait qu'ils vont quand même peut-être soutenir des séquences puis peut-être avoir déjà explosé de temps en temps. Fait que je trouve ça quand même encourageant à court terme pour les Ravens, mais c'est la défensive qui accorde 37 points par match que ça, c'est... Ça va être difficile. Il faut que ça show up. Il faut que ta défensive vienne te prendre un match.
Parce qu'on l'a vu, Cooper Rush, il est quand même potable comme deuxième. Il a backé Dak Prescott l'année passée.
Il a eu du succès.
Il était correct.
Mais tu sais, un petit astérisque, des fois, il y a des affaires qui se passent dans le monde du sport qui est vraiment inexplicable. Puis là, tu perds ton meilleur joueur, le gars qui est tout le temps dans les débats, potentiel MVP à chaque saison, qui met des statistiques incroyables, qui fait des touchdowns, que tu sais que l'attaque va scorer 30-40 points. Je ne suis pas en train de dire que les gars des Ravens en défensive font exprès. Clairement pas ça que je dis. Ils sont payés, ils essaient de faire leur job, ils font mal. Mais on dirait que c'est pas la même chose quand tu dis « Ah, gars, c'est pas la fin du monde, Lamar va aller faire un touchdown. » Mais là, Lamar, il est pas là. Fait que c'est la fin du monde si t'accordes des touchés. Est-ce que ça va réveiller? Est-ce que c'est la chose que les gars ils vont se tenir? Puis vont dire, hey les boys, on n'a pas le choix de tout pousser dans la même direction. Parce que sinon, si on chie dans les mains de notre meilleur joueur, notre saison est finie. Est-ce que c'est ça que ça prenait? Évidemment, personne ne voulait ça, mais est-ce que c'est ça qui va réveiller la défensive des Ravens?
Contre Houston, tu sais, qui sont quand même chanceux, la ligne d'attaque n'est pas si bonne que ça. Fait que s'il y a un match à prendre, c'est contre Houston. Ça arrive à point, là, ce match la semaine prochaine.
Oui, absolument.
Ben, dans le fond, là, on va mettre fin. Oh, vas-y, Marco, personne va mettre fin.
Ouais, non, mais je m'en ai dit, personne ne parle de chance à Cincinnati, quoi. Je comprends pas, non.
Non, c'est les Browns non plus. Mais c'est leur seule victoire, c'est contre une équipe facile, contre les Packers.
Sérieusement, là, mettez-vous dans la peau d'un fan de Cincinnati là, qui se font des accroirs à toutes les pré-saisons, comme quoi qu'ils ont Joe Burrow, puis ils vont peut-être faire les playoffs, puis tout. Puis là, ce matin, tu te lèves, là, puis genre, celui qui a manqué la game, ou je sais pas quoi, puis il regarde ça, les highlights à
puis il pleure dans l'autobus.
Oh my god. Ah, ça doit être tellement pénible pour être un fan de Cincinnati.
Tu sais, Lozier puis moi, on en avait parlé avant le début de la saison, mais même avec Joe Burrow, on n'y croyait pas aux Bengals en série.
C'est triste, 23 verges pour Chase.
Là, maintenant, Marc-André, tu peux partir la musique?
Yes, sir.
Alors, c'était dans le...
T'as perdu.
À l'écoute.
Oh, OK.
Dans 24 heures suite à l'écoute de ce podcast, vous allez pouvoir voir nos prédictions pour la semaine suivante et aussi, dans le fond, quel match à surveiller. Donc, on se voit dans pas grand temps. Passez une belle fête de football. On espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Merci.